11h38, François, c'est l'heure de recevoir un nouvel invité. Ce matin, on parle sport avec votre invité. Vous recevez Richard Esco, journaliste à l'équipe et auteur du livre.
Les deux se disent.
Oui, voilà, c'est pour ça. Et auteur du livre, donc 50 stars du rugby mondial.
C'est un livre qui paraît mercredi prochain, le 14 août, mais que j'ai la chance d'avoir déjà entre les mains. Bonjour Richard Esco.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Alors, 50 stars du rugby mondial, c'est le titre de ce livre dans lequel on navigue assez facilement, un peu plus de 100 pages, 2 pages par joueur, une grande photo et puis un texte. À quoi ça sert ce livre ?
Bah justement, à être up to date, la Coupe du Monde c'est dans un peu plus d'un mois, et donc ça permet de connaître les joueurs qui vont y participer, faire connaissance avec ceux qui vont briller, et puis surtout suivre des parcours atypiques et particulièrement intéressants et passionnants.
Pour n'en choisir que 50, est-ce que vous êtes mis dans la peau d'un sélectionneur ?
Non, pas du tout, parce que c'est assez facile, il y a une douzaine de grandes nations qui pratiquent le rugby, à l'intérieur de ces grandes nations, les grands joueurs, ceux dont on parle, ceux qui sont capables de renverser le cours d'un match à eux seuls, en tout cas ceux qui sont médiatisés, sont assez faciles à reconnaître et à identifier. Donc ça n'a pas été le plus dur.
Alors à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par l'actuel capitaine du 15 de France, le talonneur Guilhem Guirado. Vous en parlez comme d'un bon soldat, humble, déterminé, altruiste, pugnace, mais vous notez qu'il n'a pas réussi à inverser le sort de son équipe pour le moment.
Ah oui, il est un peu... Alors, je ne sais pas si le capitaine est à l'image de son équipe ou si l'équipe est à l'image de son capitaine, mais c'est vrai que Guilhem Guirado, c'est le parfait compagnon, c'est celui qu'on associe à tous les matchs difficiles. Vous savez, il a été 3e talonneur, c'est-à-dire le remplaçant du remplaçant, il faut pouvoir accepter ça.
Et aujourd'hui, il est capitaine.
On était en 2011, et aujourd'hui, il est capitaine. Alors, le problème, c'est le charisme, voilà. Guilhem est un homme charmant, mais est-ce qu'il a le charisme d'un Dussautoir, d'un Jean-Pierre Rive, d'un Serge Blanco ou d'autres pour être capitaine d'une équipe comme le 15 de France qui se doit d'être sur le podium mondial?
Autre cadre de cette équipe, Louis Picamol, 77 sélections, qui a tout connu, y compris l'interdiction de tout effort physique pendant une certaine période, du fait d'une pneumopathie.
Bah oui, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le sport de haut niveau, c'est pas particulièrement agréable pour le corps. Et donc, on s'est aperçu que Louis Picamol souffrait. On se demandait pourquoi il n'était pas capable de tenir 80 minutes, et il a été obligé d'arrêter, se faire soigner. Ça, l'avantage, c'est qu'il y a des tests médicaux assez précis, et donc peut-être que Louis Picamol a échappé au pire en étant sportif de haut niveau. C'est vrai que la question qui se pose, c'est est-il un titulaire indiscutable au poste de numéro 8 ? Je ne sais pas, mais en tout cas, en Angleterre, quand il a joué à Northampton, son surnom, c'était King Louis.
Tout autre profil, le jeune Romain Ntamack, 20 ans, qui est le fils d'Emile et qui est conscient de son petit gabarit. Est-ce que vous le voyez aller loin ?
Ah ben oui, parce que prenez par exemple l'exemple de son coéquipier, Cheslin Colby, il fait 1m70, 70 kilos, mais il est foudroyant, il traverse le terrain, il est capable de battre une dizaine d'adversaires tout seul sur des crochets. Ntamack est un peu dans ce profil-là, c'est-à-dire c'est un surdoué, c'est un enfant de la balle, qui est capable aussi de jouer au basket, au golf, au tennis, enfin tout, partout où il y a une balle, vous trouverez Romain Ntamack. Et c'est vrai qu'on a besoin de joueurs comme ça à vivre. Vous savez, les gros gabarits, c'est une chose, mais plus on est petit et plus on se faufile, plus c'est difficile pour les gros de vous arrêter.
Et justement, vous parlez aussi de ces joueurs qui se sont un peu cherchés, qui ont fait du foot, qui ont fait du judo avant. Est-ce que, contrairement à d'autres sports, le rugby, parfois, ça se découvre, ça se révèle assez pratiquant sur le tard ?
Oui, parce qu'il y a une dimension physique. Quand on démarre, on est tout jeune, je ne veux pas prendre mon exemple, mais bon, on est un peu frêle, on est un peu trouillard, on se cherche, on ne sait pas trop ce qu'on vaut. Et c'est vrai que le rugby, aujourd'hui, quand on va dans les écoles de rugby, on voit des gamins casqués, costauds, qui font déjà 80 kilos, qui vous rentrent dedans. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut déjà avoir une formation physique, il faut déjà être mûr physiquement pour pouvoir apprécier ce sport qui, ne l'oublions pas, est un sport de contact.
Alors, ce sont des portraits dans ce livre qui vont au-delà de l'aspect sportif, comme quand vous racontez la jeunesse du trois-quarts centre Gaël Ficou dans une cité, ses copains dont l'un est en prison aujourd'hui, quand vous décrivez Johan Huget en smoking lors des troisièmes mi-temps dont il est un prince, là je cite le livre, ou encore quand vous dites que Maxime Médard a un beau petit coup de pinceau. C'est tout ça, être journaliste sportif et suivre le rugby comme vous le faites ?
Bah, la chance que j'ai à l'équipe depuis 1985, c'est de pouvoir entrer dans l'intimité des joueurs, de pouvoir les rencontrer, pouvoir parler avec eux. Et moi, de formation étant pianiste classique et psychologue, c'est vrai que ça m'aide aussi, ma propre démarche, ma propre histoire m'aide à entrer en contact avec eux, parce que vous savez, une interview, c'est ce que vous faites, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que moi, je pourrais vous poser la question, quel est le joueur qui vous a le plus fasciné dans ce livre-là ?
Probablement Sergio Paris, qui a 138 sélections en équipe d'Italie, bientôt 36 ans, et qui, visiblement, ne manque pas de fraîcheur.
Oui, à tel point que le stade français s'en est séparé, et qu'il a rebondi à Toulon. Et c'est vrai qu'on a hâte de voir Sergio Parisse jouer pour Toulon. Alors visiblement, le président de Toulon l'attend très vite en espérant que l'Italie sortira des poules et sera éliminée rapidement. Je pense que le président de Toulon fera bien de suivre la Coupe du Monde parce que l'Italie a peut-être une petite chance.
Donc dans ce livre, des Français, des étrangers aussi évidemment, des Irlandais, Jonathan Sexton, l'Anglais Chris Ashton, et etc., etc. On va avancer puisque ça nous amène directement à la Coupe du Monde, hein, ce livre qui est donc commence le 20 septembre. C'est au Japon. Le Japon, c'est devenu une nation de rugby ?
Ah, le Japon est une nation de rugby. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'on entend par nation de rugby ? Il n'y a pas que les performances de l'équipe nationale. Une nation de rugby, c'est une nation qui permet à ses élèves, aux étudiants, de pratiquer le rugby. Et le Japon a cette particularité d'être une nation qui a développé le rugby universitaire. C'est à peu près l'équivalent du foot universitaire aux États-Unis. C'est-à-dire que, imaginez 50 000 spectateurs pour voir un match de rugby entre deux universités. Ce qui fait que la plupart des grands chefs d'entreprise, c'est pas étonnant que le Japon accueille la Coupe du Monde, la plupart des grands chefs d'entreprise ont touché un ballon de rugby. Ce qui fait qu'effectivement, les résultats du Japon sont pas exceptionnels sur le plan international. C'est la 12e nation. Mais sur le plan de la pratique, je pense que la France aurait des leçons à prendre.
Alors justement, on va finir d'un mot sur la France. Là non plus, c'est pas exceptionnel. Est-ce qu'on a une chance, ne serait-ce que de se qualifier pour les quarts de finale?
Oui, bien sûr. Sinon, faut rester à la maison. Mais c'est vrai qu'on affronte l'Angleterre, dont on sait qu'elle est extrêmement préparée, avec des joueurs de très, très grande qualité. On l'a vu dans le tournoi. La seule chance qu'on peut avoir, c'est sur le match d'ouverture. On a vu que les Argentins avaient été étriés par l'Afrique du Sud hier soir, hein, l'Afrique du Sud qui remporte donc le Four Nations Championship. Les Argentins qui ont un petit coup de moins bien en ce moment, ça sera notre premier adversaire le 21 septembre. Je pense que là, on a une très grande chance de l'emporter. Et si on ne l'emporte pas, ben, ça sera un retour quasiment direct à la maison.
Richard Esco, journaliste à l'équipe qui signe ce livre 50 stars du rugby mondial. Ça sort donc mercredi. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1 et bonne journée.